Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. L'émission qui parle de théâtre sur Divergence est une émission un tout petit peu particulière puisque vient un petit peu l'heure des bilans. Une émission entre caresses et coups de gueule. Je suis avec les chroniqueurs de Vendredi Théâtre. Je suis avec la belle Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
L'inénarrable Tito. Bonjour Tito.
Bonjour.
Et le fringant Christopher. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Donc on a vu à peu près une soixantaine de pièces depuis le début de cette saison 2012-2013 et on a sélectionné 12 spectacles dont on va dire peut-être du mal, peut-être du bien. Vraiment toutes nos impressions. Tout le monde n'a pas vu toutes les pièces, mais dans l'ensemble on a vu pas mal. On va commencer à tout seigneur, tout honneur avec le Théâtre des 13 vents, le Centre Dramatique National. Avec une catastrophe épouvantable qui a eu lieu donc du 26 au 29 mars, il s'agit d'En attendant Godot avec une mise en scène de Marie Lamachère. Grazia, est-ce que tu veux commencer ?
Eh bien, c'est très difficile. Je n'aime pas dire du mal des pièces mais que j'ai vues. Parce que je considère que, de toute façon, le travail fait par les comédiens, le metteur en scène, les éclairagistes, tout ça, c'est digne de respect. Mais il y a des fois où, effectivement, c'est un peu dur de ne pas être méchant.
Alors, sois méchante, on adore quand tu es méchante.
Alors voilà, moi, je n'ai pas aimé du tout En attendant Godot. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai été très surprise par la mise en scène qui se voulait un petit peu cinématographique aussi parce qu'il y avait des projections sur le fond de la salle qui était très réduite au demeurant. Hein.
Qui n'apportait rien. Hein ? Qui n'apportait rien.
Qui n'apportait rien, voilà. Il s'agissait du lever du jour et du coucher du soleil. Et puis, donc, cette espèce de passerelle qui pénètre dans le public et au bout de laquelle il y a un arbre. Bon, je trouvais l'idée de l'arbre, de toute façon, elle a respecté dans la mise en scène les
consignes de Beckett, voilà, qui sont très précises.
Ouais. Mais... Bon, oui, effectivement, l'idée de l'arbre elle m'a beaucoup plu. Je n'ai pas aimé le jeu des acteurs, mais alors pas du tout. Je trouve déjà que le texte en lui-même, il est assez rébarbatif. Enfin, moi, j'aime pas particulièrement ce genre de théâtre. Mais le jeu des acteurs, c'était absolument catastrophique. Ça courait partout, ça sautait partout et surtout, ça criait. C'est un jeu que je déteste quand j'entends des comédiens crier sur scène. Ça me casse les oreilles et puis c'est tout, quoi.
J'étais avec toi d'ailleurs et il faut signaler que c'est un spectacle qui dure 3h30, 3h30 de souffrance, comme tu le disais, ça braille énormément, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas le texte, ils ne disent pas le texte, ils vous le hurlent à tel point qu'on est obligé de se boucher les oreilles tellement ça criait. Il y a un entracte à un moment, on ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'il n'y a pas de changement de décor, peut-être que les comédiens avaient la voix fatiguée, peut-être que les spectateurs avaient les tympans sur le point de lâcher. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on est en train de tuer le cochon pendant 3h30, tellement ça braille.
Ouais. Il y a des spectateurs, au demeurant, qui sont partis à l'entracte. Hein.
On a failli. À un moment, on s'est dit, mais encore une heure, encore une heure et quelques.
Déontologiquement, on ne pouvait pas, sinon on serait parti. Ouais.
Mais on a quand même fait une bonne action. On a dit à Tito et Christopher, n'y allez pas. Ça suffit que deux aient souffert dans l'équipe. Et de toute façon, je savais de toute façon que vous détesteriez. Donc vous pouvez nous remercier déjà pour
merci.
Ça.
Merci beaucoup.
On commence donc par En attendant Godot, Marie Lamachère. Donc on verra un autre spectacle de Marie Lamachère pendant le printemps des comédiens, un Voidzek, dont j'ai entendu du bien. On va voir ce que ça donne. Oui. Moi je l'avais vu aussi, Marie Lamachère, dans un spectacle épouvantable. C'était il y a 2 ans, c'était à la Vignette. Et c'était un Pirandello, je ne me souviens plus du titre que c'était, mais c'était aussi 3h30, presque 4h, interminable, avec cette habitude de brailler qu'ont certains comédiens et certains metteurs en scène, qui est tout à fait détestable. Voilà.
Non,
donc,
d'accord.
En attendant Godot, c'était donc du 26 au 29 mars. Si ça repasse, ce n'est pas la peine d'y aller, à moins que vous ayez envie de soumettre vos tympans à une rude épreuve.
Voilà. De toute façon, il n'arrivera jamais, Godot.
si tu racontes
la
fin. Une autre pièce là, qui était au 13 vents, c'était au mois de janvier, du 15 au 26 janvier, L'importance d'être sérieux, d'après un texte d'Oscar Wilde dans une mise en scène de Devaux, Gilbert Devaux, et une traduction, une adaptation de Jean-Marie Besset. Alors là, déjà, on est beaucoup mieux. Tito.
Bon, alors, voilà. Mis à part le classicisme de l'adaptation, moi, je trouve que malgré ça, on pouvait s'attendre à une espèce de mise en scène théâtre Marigny.
Au théâtre ce soir.
Voilà, un théâtre ce soir, pas du tout. Donc, la seule chose qui est classique, c'est le jeu frontal et les costumes.
Mm-hmm. C'est les costumes d'époque.
Voilà. À part ça, moi, j'ai trouvé ça très frais, très, très sautillant, très respectueux du texte. Très plaisant, et on sort de là, et puis ça fait redécouvrir Oscar Wilde, parce que quoi qu'on dise, à part le cinéma, on n'en voit jamais en France Oscar Wilde. Donc, surtout dans des théâtres comme le théâtre, dans des CDN ou des choses comme ça, parce que c'est considéré un peu comme Guitry et d'autres auteurs, comme étant du théâtre pour le théâtre privé. Et, mmh. Et ça, je ne trouve pas du tout que ce soit le cas. D'abord, c'est du patrimoine. C'est une écriture extraordinaire. Ceux qui lisent l'anglais, d'ailleurs, c'est pas un anglais extrêmement compliqué à comprendre, donc s'aperçoivent tout de suite que c'est un très grand écrivain. Et cette pièce est un chef-d'œuvre absolu. Donc, je trouve déjà très bien la démarche de la présenter. Et puis, donc, on passe un très bon moment. On redécouvre le texte parce qu'il y a des trouvailles dans la traduction, même si je suis pas d'accord avec tout. Et notamment avec le titre, mais bon.
Il y avait une autre traduction qui avait comme titre, c'était L'avantage d'être constant.
Oui, moi je préfère ça, mais WC serait très fâché s'il m'entend, il serait très fâché parce que lui il tient absolument à ça. Mais bon, mais ça c'est des trucs vraiment de détail, on va au théâtre quand même pour s'amuser, pour écouter un bon texte. C'est le cas, les acteurs extraordinaires, l'introduction du travesti. Très bienvenu, très bien fait, vraiment par des gens excellents. Et les jeunes tenaient la route. Par contre, j'ai trouvé les hommes nettement meilleurs que les femmes. Ça, je dois le dire. Voilà, les trois comédiens étaient meilleurs que les deux comédiens.
Christopher.
Moi, je suis d'accord avec Tito. Je ne redécouvrais pas le texte, je le découvrais. Je n'avais jamais lu cette pièce. Mais j'ai passé un très bon moment. Et malgré le classicisme, justement que les costumes, même si c'est une pièce qui date un peu, je n'ai pas trouvé, je l'ai trouvé très au goût du jour. J'ai passé un bon moment avec ce texte. J'ai beaucoup rigolé parce que tous les aphorismes,
c'est pétillant.
C'est pétillant. On ressort de bonne humeur malgré le temps, elle dure un peu plus de 2 heures.
Oui, c'est ça.
Ou 2 heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis beaucoup amusé. C'est vrai que les comédiens étaient. La plupart étaient jeunes et extrêmement convaincants dans leur rôle.
Gadia.
Ah oui, moi, mon opinion est la même que celle de Tito et de Christopher. J'ai passé un moment extraordinaire. C'est un vrai délice. Moi, qui suis femme et donc sensible à la beauté, peut-être plus que les hommes, hein, ce qui concerne les vêtements. Non, je parle de vêtements. Ah. J'ai trouvé les costumes magnifiques et... Oui, je pense que Gilbert Devaux, qui a fait la mise en scène, il a eu raison de garder les costumes d'époque. Parce que ça contribue à cette idée de l'art qu'on avait à l'époque d'Andy, quoi. Hein,
Je suis pas sûr que si on avait mis au goût du jour, enfin avec des costumes plus modernes, je suis pas sûr que ça aurait été pertinent ou plus drôle. Je pense que c'était bien de garder.
Je pense qu'il y aura des trucs qui n'auraient pas marché.
Oui, peut-être.
C'est probable.
Même si moi je trouve que quand on change d'époque, il y a des choses qui apparaissent qu'on ne voit pas. Et moi, je regrette ne jamais avoir vu une pièce d'Oscar Wilde jouée en costume moderne. Parce que du coup, je vois toujours que ce qu'on peut voir quand on est dans la situation du 19e siècle.
Oui, c'est, en fait, c'est voilà, cette critique.
C'est la seule chose. Mais, mis à part ça, il n'y a rien à dire. C'était très bien.
Oui, mais tu n'as pas tort. Parce que c'est une critique féroce de cette société victorienne qui pourrait être absolument d'actualité aujourd'hui par rapport à...
Absolument. Dans la moyenne bourgeoisie, ça continue d'être exactement pareil.
Dans cette hypocrisie, dans ce goût du paraître, dans cet anéantissement de l'être, de la personne. Je trouve que, oui, effectivement, ça, c'est très actuel, c'est universel.
Et cette société victorienne, d'ailleurs, va finir par broyer Oscar Wilde.
Parce qu'après
la représentation donc, de l'importance d'être sérieux, il y a les procès d'Oscar Wilde qui vont le conduire au bagne.
Oui, et à la mort.
Et à la mort. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la traduction de Jean-Marie Besset. Je trouve que Jean-Marie Besset est meilleur en traducteur qu'en auteur. Ce que j'ai vu comme texte de Besset ne semble pas casser trois pattes à un canard, très honnêtement. Par contre, dans les traductions, il me semble beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent. C'est quelqu'un qui connaît très bien la langue anglaise.
Absolument.
Et il nous a donné quelques spectacles, il nous a permis de découvrir quelques auteurs. Il avait fait la traduction du spectacle de Tennessee Williams. Entre autres.
Ouais.
Et voilà. On sait maintenant que Besset ne restera pas très certainement aux 13 vents. C'est un petit peu injuste.
C'est fort dommage.
Voilà, parce qu'en fait, il n'avait pas démérité pendant ces quelques saisons. Bon, à part les bémols pour les spectacles avec ses textes à lui, dont certains. Mais on y reviendra.
Alors, est-ce que je peux dire un mot? Parce qu'il faut quand même dire les choses. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était très bien la façon dont il avait été nommé. Mais ce n'est pas lui qui s'est nommé lui-même. Il a fait, et ça ne se fait jamais, c'est une loi non écrite, mais ça ne se fait jamais de virer les gens au bout de 3 ans, surtout quand ils n'ont pas démérité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mis à part ça, je ne suis pas un fan du style de Jean-Marie Besset, de son théâtre. Mais il y a quand même des choses que j'ai vues de lui et présenté par lui, proposé par lui, que j'ai beaucoup aimé aussi. Il faut être honnête avec les gens. Voilà.
Fait.
Aux dernières nouvelles, j'ai appris que M. Besset avait assigné Mme le ministre de la Culture, Aurélie Philippetti, devant le Conseil d'État pour sanctions disciplinaires déguisées et non fondées. Donc le mandat de Jean-Marie Besset devait s'achever le 31 décembre. Je crois que ce référé, cette action en justice, va peut-être prolonger son mandat. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et en plus, ce référé va bloquer l'appel à candidature. Donc, affaire à suivre pour l'avenir des 13 vents.
Ouais.
On va changer de théâtre avec un petit théâtre. On a l'habitude, vendredi théâtre, d'aller dans les grosses machines, mais aussi d'aller dans les petits théâtres, dans les toutes petites structures, dans les théâtres de poche. Et un très beau théâtre, c'est La Vista, qu'on aime beaucoup. Alors je sais qu'ils ont quelques difficultés financières, donc on va suivre cette affaire. Et il y a un spectacle que ceux qui l'ont vu, ont tous adoré. C'est La Mégère apprivoisée par la compagnie Les Têtes de Bois. C'était au mois de novembre. Qui l'a vu ?
On l'a vu ensemble, Grazia.
Toi, tu ne connaissais pas Les Têtes de Bois encore.
J'en avais entendu parler, on m'en avait dit du bien. Donc j'y suis allé très tranquillement. Et donc, La Mégère apprivoisée, c'est une pièce, une comédie
de Shakespeare.
Donc, à La Vista. Je crois que ça a fait l'unanimité entre Gardia et moi. On a passé un excellent moment. Beaucoup de monde sur scène. Beaucoup de rire. Beaucoup, une mise en scène intéressante. Des costumes, des masques, très italien finalement, comme pièce. Je pense que tu as pensé ça.
Oui. Ah oui, c'est une mise en scène à la Commedia dell'arte. Et la compagnie des Têtes de Bois est coutumière de ce genre de choses. Ils savent les faire très, 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 très bien. Valeria Emanuele, c'est une actrice qui a une charge énorme. C'est quelqu'un qui a une présence sur scène. Et
au micro, parce que quand elle était venue, elle avait assuré.
Absolument. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, dans cette pièce en particulier, le rôle de la mégère, elle le joue de telle façon qu'à un moment donné, le spectateur, enfin moi personnellement, et je crois que les spectateurs tous ensemble, on a peur, on se dit, mais quelle... Elle va le trucider, elle va l'assassiner, elle va et finalement c'est petit à petit c'est lui qui l'apprivoise. Enfin c'est ce capitaine de bateau, hein, me semble-t-il, c'est un capitaine non de bateau qui revient, qui est un aventurier qui a besoin de faire un mariage d'argent parce qu'il a plus rien et que donc voilà.
Ça doit être assez immoral.
Oui, un être assez immoral.
On ne s'y attend pas qu'il arrive à la dompter, d'ailleurs.
Non, voilà, il la dompte, c'est le terme exact, c'est ça, oui, absolument.
C'est presque choquant, d'ailleurs, dans la manière qu'il a de faire.
Et puis, donc, il y a des costumes magnifiques, il y a toutes les trouvailles impossibles et imaginables, mais qui sont toutes reconductibles, effectivement, à la Compagnia dell'Arte, oui, dont cette compagnie est vraiment spécialiste.
Oui, et je voulais souligner la présence sur la scène, sur le côté de la scène, d'un musicien qui accompagne, je ne me rappelle plus son nom, malheureusement.
Facundo,
voilà.
Italo-argentino.
Alors ce musicien accompagne la pièce tout le long, fait la musique à lui tout seul, et il apporte une touche originale au spectacle qu'on a beaucoup aimé.
Voilà, et puis pour rappeler aussi le petit côté italien de Valeria, enfin l'italienne Valeria, parce qu'elle est italienne.
C'est pas un petit côté.
C'est donc il y a des musiques de Giovanna Marini qui est une chanteuse, voilà, d'origine, une chanteuse on dit, oui, d'origine romaine, elle est de Rome, Giovanna Marini, qui a chanté beaucoup le répertoire.
Elle est spécialisée dans les polyphonies.
Voilà, et dans les polyphonies.
Je l'ai vu dans plusieurs spectacles.
Elle a créé extraordinaire. Un conservatoire avec Pasolini.
Absolument.
C'est pas n'importe qui.
Non, Giovanna Marini.
Et Valeria, je dois dire que je trouve c'est incroyable qu'on gâche cette richesse ici à Montpellier parce qu'on ne s'en sert pas assez. Du fait d'avoir cette grande dame à Montpellier, on devait s'en servir un maximum, l'exploiter au maximum,
oui.
Parce qu'il y a des gens comme ça, après on va dire « Ah, quel dommage !» Ben oui, mais c'est maintenant qu'il faut s'en servir, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser.
Oui. Hein.
Alors c'est dans le bon sens du terme.
C'est très drôle parce que c'est une troupe de théâtre qui, un peu à l'italienne, dirais-je, fonctionne en famille. Quoi. C'est une affaire familiale parce que Valeria est donc mariée avec le metteur en scène qui s'appelle Mehdi et je suis désolée de ne pas pouvoir dire son nom de famille parce que je l'ai oublié et qui est aussi quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Quoi. C'est un grand metteur en scène. Et c'est dommage que dans les grands théâtres de Montpellier, cette compagnie ne soit jamais programmée.
Oui, c'est rare, oui. C'est rare.
Non, mais tant qu'à faire, faisons un peu de pédagogie.
Parce que
la Commedia dell'Arte, on ne sait pas du tout comment c'était joué. Pratiquement, on a quelques idées.
Oui.
Et justement, je parlais avec elle. J'ai énormément appris en parlant avec Valérie sur le sujet. Elle dit, mais justement, c'est ça qui est bien. C'est qu'on a des idées, idées, évidemment.
Bien sûr.
Ça, c'est quelque chose qu'on a... Jouer quelque chose comme l'alerte, ça n'a pas forcément grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de prendre la technique et les codes de la comédie d'alerte pour en faire quelque chose avec une pièce. Et ça, ils le font de façon merveilleuse et extraordinaire.
Voilà. Une chose que je voudrais ajouter, c'est que grâce à la compagnie de Valeria et de Mehdi, le grand monsieur qui a été prix Nobel de littérature en Italie, Dario Fo, est venu à Montpellier qui a été fait. Donc,
c'était il y a 3 ans ou 4 ans
ça fait 5 ans peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, et Madame le maire lui a remis la médaille de la ville. C'est quelque chose de bien.
À souligner, toujours pour revenir sur la compagnie Les Têtes de Bois, j'ai vu sur Internet qu'ils lançaient une campagne de souscription pour que la mégère apprivoisée puisse se produire à Avignon 2013. Tu as été au courant de ça, Gradia?
Oui. D'ailleurs, j'ai l'intention de contribuer là. Ouais.
Allez sur le site de la compagnie Tête de Bois et cliquez sur le lien. Vous pouvez, à partir de 5 euros, les aider.
Voilà. Ils ont besoin de 3 000 euros, je crois, pour aller à Avignon.
Mais si les 3 000 euros ne sont pas atteints, on est remboursé.
Mais j'espère qu'ils vont les atteindre.
Oui.
Voilà, c'était donc la Mégère apprivoisée, la compagnie Les Têtes de Bois. Ça se déroulait donc à La Vista du 15 novembre au 2 décembre. On reste à La Vista très rapidement avec un spectacle, moi, qui ne m'avait pas du tout enthousiasmé. Il s'agissait du Barillet. Ça avait lieu du 14 au 17 février avec une mise en scène de Philippe Goudard. J'aime beaucoup Philippe Goudard, mais j'avoue que c'est Pélaez, l'auteur, qui me déplaît souverainement. Il y a un côté dans la rubrique « Je suis un art », etc. Mais en même temps, si on creuse un peu, je le trouve extrêmement réactionnaire. J'avais vu une autre pièce de lui qui était une catastrophe, qui s'appelait « Les singes savants », dont j'étais sorti furibard parce que ça jetait l'eau du bain avec le bébé, etc.
Homophobe, raciste en plus.
Oui, et moi j'étais toujours très très mal à l'aise. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. C'était un auteur que tu ne connaissais pas, Gradia, que tu...
Non, je ne connaissais pas et j'ai pas aimé.
Il y a un côté déplaisant.
Il y a un côté déplaisant Enfin, peut-être qu'il y a, le seul point positif qu'on peut trouver à ce spectacle, je pense, c'est cette volonté de dénoncer l'escalade de la violence dans notre société. Mais tout ça, ça serait résolu après par l'usage d'un revolver. C'est pour ça que ça s'appelle le barillet, hein, parce que c'est il est toujours question de résoudre les conflits entre les êtres par cette arme qui est un revolver. Donc non, j'ai pas spécialement aimé. Il y a un moment donné, il y a un jeu de chaises. Je dois dire qu'en plus, je me souviens pas tellement bien de cette pièce parce qu'elle m'a vraiment pas marqué. Non.
Voilà, c'était donc à La Vista. Ça se passait donc du 14 au 17 février. On va faire une petite pause musicale histoire de reprendre notre souffle. N'oublions pas que nous sommes au mois de mai, qu'il y a 45 ans, il y avait pas mal de gens dans la rue en mai 68, que la France était en grève générale. Et donc pour s'en souvenir, j'ai choisi un titre de Claude Nougaro, Paris-Mai.
Moi.
Mais Paris, mais Paris, mais Paris, mais Paris, mais Paris, mais Paris. Des pavés ne bougent plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume. Et piochant l'évasion d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps. Mais Paris, mais Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon gris. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Paris, mais Paris. Mais Paris, mais Paris. Et je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries.
Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons. Intelligence blanche et grise religion. Mais Paris, mais Paris. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, mi-manne, mi-mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant. Mais Paris, mais Paris. Le jeune homme harassé déchirer ses cheveux, le jeune homme hérissé arracher sa chemise. Camarade, ma peau est-elle encore de mise? Et dedans mon cœur seul ne fait-il pas vieux jeu? Avec ma belle amie quand nous dansons ensemble, est-ce nous qui dansons ou la terre qui tremble? Je ne veux plus cracher dans la gueule à papa. Je voudrais savoir si l'homme a raison ou pas. Si je dois endosser cette guérité droite, avec sa manche gauche, avec sa manche droite. Ses pâles oraisons, ses hymnes cramoisis, sa passion du futur, sa chronique amnésie. Mais Paris. C'est ainsi que parlait sans un mot ce jeune homme, entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau, où les hommes noyés nagent dans leurs autos. C'est ainsi, sans un mot, que parlait ce jeune homme. Et moi, l'oiseau forçat, casseur d'amères croûtes, vers mon ciel du dedans, j'ai replongé ma route. Le long tunnel grondant sur le dos de ses murs, aspiré tout au bout par un goulot d'azur. Là-bas brille la paix, la rencontre des pôles et l'épée du printemps qui sacre notre épaule. Gazouiller les pinsons à soulever le jour, et nous autres grinçons qu'on le vit de l'amour.
Et oui, Paris-Mai, c'était il y a 45 ans, mai 68, où la France entière était en grève générale. L'émission Vendredi Théâtre, l'émission Entre caresses et coups de gueule, nous avons sélectionné donc 12 spectacles qu'on a vus cette saison, pour le meilleur et pour le pire. On va aborder maintenant le théâtre Jean Vilar, avec merveilleux spectacle, enfin moi que j'avais trouvé merveilleux, très drôle, Un fil à la patte d'après Feydeau, avec une mise en scène de Jean-Claude Fall et la compagnie Jean-Claude Fall. Qui veut y aller ? Tito, je te sens mûr.
Oh, c'est... Là, c'est... Alors, c'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, les décors, les costumes, contemporain, le jeu des acteurs, la mise en scène, le rythme, parce que c'est un vaudeville. Et donc, c'est comme une partition. Tac, 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 j'entre, je lance la réplique et tu me réponds. Et tout ça, c'est extraordinaire. Ils occupent l'espace de façon parfaite. C'est une leçon de mise en scène totale. Comment faire une mise en scène. Je trouve que tous les étudiants devraient voir ça pour apprendre comment faire des choses, que pour apprendre comment faire du théâtre. Voilà, c'était dans l'excès, c'était merveilleux, dans la retenue, c'était très bien. Enfin, c'était parfait, parfait.
Christopher.
Oui, je suis d'accord. Je pense en effet que on devrait aborder le vaudeville, quelqu'un qui n'en a jamais vu, en voyant une pièce comme celle-ci. Moi, j'avais un peu des a priori par rapport à des pièces de vaudeville plus classiques qu'on pourrait voir à la télé, qui me semblaient ennuyeuses,
poussiéreuses,
avec beaucoup de cabotinage, alors que là, c'était la rythmique. Et puis un David Ayala phénoménal.
Il est toujours phénoménal, David. Hein. Mais là, vraiment, c'était un rôle taillé sur mesure pour lui. C'était... Ah,
j'ai adoré un passage où il est en caleçon qui n'était pas un caleçon d'époque, à mon ami.
Un panthère, ah ouais.
Hilarant.
Gradia.
Ah ben oui, je vais répéter. Ce qu'on vient de dire, c'est effectivement une mise en scène magnifique. Tous les personnages sont à propos, tout est bien joué, d'autant plus qu'ils sont toujours sur scène et qu'ils se déplacent dans un espace qui n'est pas cloisonné et qui permet aux spectateurs presque de savoir à l'avance ce qui va se passer. Et ça, c'est une trouvaille extraordinaire de la part de Jean-Claude Fall, je trouve.
Oui.
C'est une magnifique histoire d'amour qui se révèle donc dans le jeu de Roxane. Borgne qui joue Lucette, qui est une fille au fond.
Roxane Borgnia.
Je suis désolée. qui est donc un personnage très très touchant, très très touchant, vraiment l'amour personnifié, quoi.
C'est vrai que la mise en scène de Jean-Claude, elle nous permet aussi de voir la richesse du texte, la précision du texte. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de mises en scène. J'ai vu pas mal de mises en scène de ce texte. Et souvent, ça tombe à plat parce que le décor au théâtre ce soir, ça marche pas et ça ne rend pas du tout service à Phédo. Je voulais signaler aussi que Jean-Claude a eu la très bonne idée de rajouter des musiques.
Absolument. C'est du théâtre à musique.
En direct, puisqu'il y a les musiciens.
Les musiciens sont sur scène et c'est une création pour le spectacle. Et je ne me souviens plus si tu as le nom du musicien sous les yeux qui a fait la musique. Et ça, c'est une très bonne idée parce que le texte est fait pour ça.
Le texte est rythmé.
Reinhard Wagner.
Je savais que c'était Wagner quelque chose.
Voilà. Et en fait, Jean-Claude tient à dire que ce n'est pas une comédie musicale, c'est du théâtre en musique.
Absolument.
C'est quelque chose qu'il nous avait précisé.
C'est quelque chose qui lui tient à cœur, je crois.
Ouais, j'ajouterais sur la mise en scène, on voit derrière les acteurs, on les voit se préparer à venir, ils sont totalement visibles. Et malgré cela, on voit qu'il y a une blague qui va arriver avant même qu'elle arrive. Et ça apporte beaucoup, je trouve que ça enrichit beaucoup la pièce.
Ça double l'effet de surprise, au contraire, ce qu'on pourrait penser.
Je voulais aussi quand même nommer Dominique Ratona, qui joue le rôle de Bouzin.
Il est absolument hilarant.
Absolument.
Et le général.
Le général.
Il travaille aussi avec les têtes de bois,
et le général qui était donc le fameux capitaine dans la Mégère apprivoisée. Absolument. Et oui, le général, que je vous dise son nom, c'est Grégory Nardella. Oui. Non, mais ils sont tous.
Toute l'équipe est absolument.
Hanok, tous.
Qui est un très grand acteur. Je l'ai vu tout seul dans une pièce de Dario Fo, tout seul. Et ça dure presque une heure et demie.
Grégory.
Oui. Ouais. Et mon Dieu.
Bref, une opinion très favorable. Si ça se rejoue, courez-y. C'est un fil à la patte, donc une mise en scène de Jean-Claude Fall. Ça avait eu lieu du 20 au 22 février à Jean Villard. On va rester à Jean Villard avec un spectacle qui fait beaucoup moins l'unanimité. Il s'agit des Témoins, la compagnie Adesso et Sempre et une mise en scène de Julien Bouffier. Ça avait lieu au mois d'octobre. Alors moi, je suis très mitigé sur ce spectacle. Qui veut commencer ?
Alors,
Gradia, non, Gradia pour une fois, allez.
Bon, bah, c'est donc.
On l'a vu ensemble d'ailleurs.
On l'a vu ensemble. Hein. Alors, c'est assez surprenant comme approche, hein, parce qu'on arrive au théâtre et on vous donne un formulaire à remplir. Mmh. Et donc, selon les réponses que vous avez données, avant le début de la pièce, enfin, on vous met dans un groupe. Parce qu'en fait, le spectacle se déroule sur trois lieux différents et chaque groupe de spectateurs assiste à un spectacle. Et en fait, c'est quoi le spectacle ? C'est la chronique des activités mondiales, disons, sur deux ans, en gros, de 2010 à 2012. Et donc, chaque groupe de spectateurs voit qu'une seule partie de la pièce. Quoi.
Et à la fin, enfin, ça se rejoint.
Et à la fin, on se rejoint.
Parle bien dans le micro.
À la fin, on se rejoint et on se retrouve submergé d'énormes boîtes blanches en carton dont on ne voit pas trop l'intérêt. Hein, c'est ça, hein, Tito ? Voilà. Et alors, moi, au début, je me suis dit, tiens, c'est sympa, c'est du théâtre expérimental. Et moi, je suis pas une adepte de ça, mais bon, je me suis dit, peut-être que ça va être bien. Et puis, finalement, ce qui m'a aussi énormément dérangée, c'est l'intromission constante de Julien Bouffier, qui est devant son portable, hein, et qui, à chaque fois, il commente. C'est un peu mégalo comme attitude pour un metteur en scène, je trouve, mais bon, c'est
Julien Bouffier.
Voilà. Désolé, hein, Julien. Tito.
Moi, j'aime bien ce qu'il fait, Julien Bouffier. Moi, mais là, je trouve qu'il a raté son coup. Voilà. Je suis désolé, mais c'est dans le propos qu'il a raté. Moi, déjà, le théâtre de commentaires... Ou de témoignage, je ne vois pas vraiment la grande différence. C'est un exercice très périlleux. Comme d'habitude, il s'entoure de gens d'un talent extraordinaire,
que
ce soit des acteurs, la musique, le décor magnifique, la vidéo extraordinaire. Et donc ça déjà, on ne peut pas dire qu'on sort de là sans avoir plein les yeux, plein les yeux, plein l'estomac, plein partout. Par contre, je trouvais quand même, peut-être parce que c'est ma formation d'ethnologue, je ne sais pas, et que j'ai fait de la politique depuis très très longtemps, je trouve qu'il est prisonnier quand même, dans le propos, prisonnier de quelque chose de très bourgeois. Et ça ne va pas le faire plaisir, mais c'est très bourgeois, son point de vue sur ce qui se passe dans ces pays-là. On peut me dire, mais moi je suis allé, pas toi. Oui, moi je ne suis pas allé là-bas, mais j'ai vécu un peu la même chose. Et ça me rappelle beaucoup trop ce qu'on disait sur mon pays à une époque un peu semblable. De part et d'autre, l'extrême gauche disait des conneries à sa façon. Et de l'autre côté, la droite disait les mêmes conneries, mais en sens inverse. Et j'ai bien peur... qu'il soit tombé exactement dans le même travers. Alors, après, on peut me dire, ah oui, mais j'ai des copains sur place qui me disent ceci, cela. Mais moi aussi, moi j'avais des copains sur place, et moi-même, à mon avis, je disais des grosses conneries, moi aussi, quand on est sur place. Donc, ces choses-là, c'est très difficile, et je trouve qu'il s'est cassé la gueule. Voilà, c'est tout.
Christopher, tu ne l'avais pas vu ?
Non, je n'ai pas vu la pièce.
Moi, je vais peut-être un peu enfoncer le clou. Moi, il y a un aspect quand même très déplaisant dans le spectacle. C'est le côté donneur de leçons que je ne supporte pas chez Julien. C'est vrai qu'il y a un côté bobo, bobo donneur de leçons, à la limite un petit peu menteur de temps en temps. Hein, on tire la réalité, et toujours avec l'alibi. Mais moi, je connais des gens sur place. On veut nous tirer vers quelque chose et je ne trouve pas ça très, très honnête intellectuellement. Mais j'aime bien généralement ce que fait le travail que fait Julien Bouffier. Il y a des spectacles que j'avais vraiment adorés. Ce n'est pas le cas pour celui-ci.
Oui.
Je suis ressorti avec un petit goût amer dans la bouche en disant « Mais t'as essayé de me rouler dans la farine, toi. » Voilà, c'était donc...
Oui, si on fait une comparaison avec le spectacle de Fall, Hôtel Palestine, par exemple... Bon, hein.
Plus intelligent.
Bouffier a participé un peu aussi.
Oui.
Et là, ça fonctionne.
Voilà, ça fonctionnait parfaitement. Ouais.
C'était donc Les Témoins, c'était au Théâtre Jean Vilar, ça avait lieu du 4 au 11 octobre, donc en début de saison, et un avis très mitigé de la part de toute l'équipe. On va passer à un tout petit théâtre qui fait des très belles choses, il s'agit du Carré Rondelet. Carré Rondelet, c'est 40-50 places, une petite salle de spectacle, et on a vu d'excellentes choses au Carré Rondelet, donc... Je ne me souviens pas si j'ai eu un spectacle que je n'avais pas aimé, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui. Un spectacle, par contre, que moi, j'avais adoré, qui était une découverte. Je connaissais bien le texte et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ce Dracula de Bram Stoker ? C'était donc la compagnie Broutille et compagnie. C'était au Carré Rondelet. Ça avait lieu du 13 au 17 février. Et pour moi, c'était un spectacle fait avec 10 bouts de ficelle, avec très peu de moyens, et ça marche. On a l'atmosphère, tout à fait, du bouquin de Bram Stoker, du Dracula de Bram Stoker, qui est un monument de la littérature fantastique. Et là, avec des petits bouts de ficelle, ils arrivent à tout recréer, toute cette ambiance qu'il y a dans le roman. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les uns et les autres. Christopher ?
Effectivement. Le texte, je n'avais vu des adaptations du texte qu'au cinéma. Mmh. On retrouve une ambiance très sombre, très, très, très glauque, des jeux d'ombre et de lumière. On a l'impression que la pièce qu'on voit, par rapport au travail qu'ils ont fait avec l'ombre et la lumière, on a l'impression que la pièce est vraiment noir et blanc. Mmh. Et beaucoup de trouvailles sur beaucoup de petits détails qui m'ont beaucoup surpris. Et j'ai retrouvé beaucoup de talent de la part de cette troupe.
Ce qui était impressionnant, c'est que tout marche. Tous les petits bouts de ficelle, les petites trouvailles, etc. Tout fonctionne parfaitement. Il y a un sacré travail qu'ils ont fait, que la compagnie a fait, pour que ça fonctionne. Parce qu'ils ne sont que trois.
Ils sont trois. Ils se changent tout le temps. Ils ont des rôles différents, chacun à jouer. Parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le livre de
Bram Stoker.
Bram Stoker, pardon. Pourtant, je l'ai lu. J'ai toujours du mal à prononcer les noms étrangers. Donc c'est un noir et blanc, et puis il y a cette tache rouge quand même qui se promène et qui rappelle le sang, la nourriture des vampires. Et il y a d'ailleurs la carte, c'est magnifique. Et
on suit le voyage donc
du...
Et en fait, le roman de Bram Stoker, c'est un roman qui doit faire dans les 500 pages, et il y a tout le roman.
Oui, absolument.
Il y a tout le roman, du début à la fin.
Absolument.
Au début avec l'invité de Dracula. Et ils ont respecté aussi le fait que Dracula, on ne le voit pratiquement jamais.
C'est
une présence, mais à part au début, on ne le voit pas.
Ouais.
Il se transforme.
C'était
une belle réussite.
C'était une belle réussite. Ouais.
C'était donc au Carré Rondelet. Ça avait lieu donc du 13 au 17 février. On va rester dans le Carré Rondelet avec Le Premier Homme. C'était Jean-Paul Chintu, c'était le 30 janvier au 3 février. Qui avait vu ça ? Le Premier Homme d'après Albert Camus.
Christopher et moi.
Christopher, allez.
Oui, donc on découvre sur scène le texte d'Albert Camus qui est son dernier ouvrage qu'on retrouve dans sa voiture après son accident. Un texte qui est interprété par Jean-Paul Chintu, un texte interprété en toute simplicité. Avec un simple éclairage, mais bon, d'abord, quel texte déjà, hein, on retrouve tout Camus dedans.
Quelle écriture ?
Oui, moi j'étais ému. On retrouve de l'émotion, de la simplicité, une très belle interprétation, une très grande beauté dans le texte. C'était vraiment, j'ai passé un moment très agréable sur cette pièce.
Bah, je regrette qu'on ne va pas s'éterniser sur ce texte, sur ce
oui,
pièce.
Oui, le temps presse.
Parce que, qu'est-ce qu'il faut dire ? Bah, c'est merveilleux. Donc,
si voilà. Ça repasse, allez-y, parce que ouais. C'est un très bon moment. C'était donc le premier homme, d'après Albert Camus. Jean-Paul Chintus, c'était au Carré Rondelet du 30 janvier au 3 février. On va faire une petite pause musicale avec Arthur H., une reprise de Piaf. Palam, palam. Mmh.
Qui m'obsède jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Et bien d'aussi loin que je viens, traînée par 100 000 musiciens. Un jour cette terre me rendra fou, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Et elle me fait le coup de souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Je revois tout ce qui me reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours. Sur un air qui va toujours, palam, palam, palam. Des je t'aime de 14 juillet, palam, palam, palam. Des veux-tu en voilà par paquet. Padam, padam, padam. Des toujours qu'on achète au rabais. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue. Sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait. Padam, padam, padam. Comme si tout mon passé défilait. Padam, padam, padam. Faut garder du chagrin pour après. Non, 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 cette air qui bat comme un cœur de bois.
Arthur H. dans cette version de Padam Padam. Vous êtes toujours sur Vendredi Théâtre sur Divergence FM. L'émission entre caresses et coups de gueule, puisque nous passons au crible un petit peu la saison, une partie de la saison 2012-2013. Un spectacle, un domaine, le domaine d'eau, on n'en a pas encore parlé, avec un spectacle qui, je crois, a fait l'unanimité. Moi, j'y allais un petit peu reculons au départ, et puis j'avais tout à fait tort. Il s'agit de Moi, Caravage. C'était César Capitani dans le rôle de Caravage. Et à mon sens, c'est une très, très, très grande réussite. C'est d'après un texte de Dominique Fernandez, un roman de Dominique Fernandez. Et pour moi, c'était une très belle réussite. Grazia.
Oui, donc c'est le roman La course à l'abîme,
voilà, de, la course à l'abîme.
De Dominique Fernandez.
Qui est un superbe roman, par ailleurs.
Qui est magnifique, oui, oui. Qui l'a donc résumé avec tous les points principaux quand même. Hein, toute la vie de Caravage, ses joies, ses douleurs, la persécution de l'Inquisition, ses amours, tout y est, tout apparaît dans la pièce. Et pour quoi dire, c'est une pure merveille. Le jeu de Capitani, qui a été quand même formé par Strehler au Piccolo Teatro, oui, de Milano, c'est ce jeu posé, qui s'envole par moments, qui a des envolées par moments, mais qui se tombe toujours juste, il y a pas de cri dans ce genre de jeu, il y a pas de, même si les situations sont dramatiques, et parfois pour ce pauvre Caravage qui est toujours persécuté par l'Inquisition, parce qu'il fait des peintures que, qu'on ne comprenait pas à l'époque, qui étaient sanctionnées par le Saint-Office.
Et puis c'était un sacré tempérament aussi, Caravaggio.
Ouais. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il est accompagné sur scène par Laetitia Favart, qui chante du Monteverdi.
Bien devant le micro.
Oui, pardon. Voilà. Et puis, je me souviens donc des jeux de lumière aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez
de
ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait,
Ah oui, mais le clair-obscur, c'est très bien
voilà.
rendu.
Voilà, donc c'était rendu l'idée du clair-obscur, dont Caravage a été l'initiateur, en fait, dans la peinture, était aussi rendu par cette lumière qui est simple, pure, parce que c'est pas des lumières artificielles, hein, ce sont des bougies. Donc c'est vraiment magnifique. Et
Je pense qu'on est tous d'accord sur ce spectacle. Moi, je voudrais juste insister sur le fait que le roman de Dominique Fernandez, c'est un roman énorme, qui fait 500 et quelques pages, je crois, aussi. Et toute l'atmosphère du roman est dans la pièce.
Tout à fait.
Hein, et ça, ils ont fait un travail de découpage. Le travail, d'ailleurs, a été salué par Dominique Fernandez lui-même.
Ouais.
Et très, très beau spectacle. Ça augurait bien de la saison au Domaine d'Eau. Et ça se passait donc au Domaine d'Eau. C'était du 1er au 5 octobre 2012. Et on commençait très bien. Un spectacle qui, par contre, n'a pas fait l'unanimité. Il s'agit de Habillage, la compagnie Les Grisettes. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, du 14 au 16 mars. Et c'est Tito et Christopher qui l'avaient vu. Et je crois que vous êtes sortis plutôt dubitatifs, si ce n'est pire.
Dans la première pièce, ça allait. Il y avait trois pièces.
Non, tu te trompes, Tito. Nous ne parlons pas des idéales.
Nous parlons des Grisettes.
Les Grisettes. Habillage des Grisettes. Tu te rappelles ?
Bon, visiblement, ça t'a pas marqué.
Moi, ça ne m'a pas convaincu. Le sujet semblait intéressant. On abordait la thématique des grisettes, qui sont ces couturières du 19e siècle, leurs conditions de travail. une pièce plutôt musicale. Au départ, le sujet m'intéressait, mais au final, une pièce qui part un peu dans tous les sens, sans vraiment choisir son chemin, qui passe parfois d'un côté militant, peut-être à mon sens trop peu présent, et beaucoup d'idéalisation de la condition des grisettes. Je pense que ce n'était pas si bien que ça comme condition. Et finalement, je trouvais ça dommage que le spectacle parte dans toutes les directions et qu'il perde un peu du coup de sa force et de son intérêt.
Et ils auraient intérêt à regarder ce qu'il fait Jean-Claude Pall.
Moi, ce que j'avais un petit peu entendu, c'est qu'il y avait un bel enthousiasme quand même de la metteur en scène quand elle était venue.
Oui.
On connaissait bien son sujet. On a fait une interview tout à fait agréable. Mais bon, le spectacle, lui, ne vous a pas
on peut rater
enthousiasmé.
Son coup, hein.
C'était donc Habillage par la compagnie Les Grisettes. Ça avait lieu du 14 au 16 mars. Et on va prendre maintenant, on va parler d'un théâtre. Je pense que c'est le théâtre où on a été le plus cette année, puisqu'il se passe toujours quelque chose à Pierre Tabar, tous les jours. C'est même impressionnant, je ne sais pas comment ils font. On a sélectionné deux spectacles pour cette première émission entre caresses et coups de gueule. Le premier, c'est Le Neveu d'Amérique, Louis James Cortez. Ça avait lieu du 28 novembre au 2 décembre. C'était une adaptation d'un roman de Sepúlveda. Qui l'avait vu ?
C'était
Christopher.
Gradia et moi, je crois.
Oui, j'en suis sûre.
Voilà.
Gradia.
Bon, donc, Le Neveu d'Amérique est tiré du roman de Luis Sepúlveda, qui est un écrivain chilien, découvert sur le tard, dans les années 90, mais qui est très apprécié maintenant. Il a écrit plusieurs romans, tous avec un langage assez acerbe quand même, comme son Chili natal. et en fait, bon, il a été condamné suite à la révolution, à la prise de pouvoir de Pinochet,
au coup d'État plutôt.
La révolution, il l'attendait, mais elle n'était pas au rendez-vous. Et il a été emprisonné pendant 2 ans et demi, et puis il a été contraint à l'exil. Donc il a été chassé du Chili. Et Et ça, c'est donc l'histoire...
Autobiographique, c'est le récit autobiographique voilà, de son voyage, de son voyage jusqu'à ce qu'il arrive en Espagne. Donc il avait un grand-père qui part d'Espagne à cause d'une dictature et qui va au Chili. Lui-même part du Chili à cause d'une dictature et retrouve ses racines. Malgré l'aspect difficile de sa vie, de ce qu'il a vécu, il donne un texte avec beaucoup d'humour, avec une réelle impression de voyage. Un texte qui m'a plein de fraîcheur, qui mérite le coup. Hein,
qu'on et puis avait lui, beaucoup le comédien, donc Luis James Cortés, quand on l'avait reçu, il adore son texte, ce roman.
Il connaît personnellement.
Oui.
Il joue aussi avec les masques, comme ça.
Avec différents types de masques, selon le personnage. Il faut dire que ce comédien bouge énormément sur scène. Mmh. Il utilise beaucoup son corps, il bouge de partout, et puis ses masques qui sont très 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 beaux.
Donc Le Neveu d'Amérique, c'était une belle réussite au théâtre Pierre Tabar. Il nous reste une minute et demie, je pense, pour parler du dernier spectacle. C'était un Sacha Guitry, Faisons un rêve, une mise en scène de Gérald Papazian. À mon sens, c'était, j'y allais encore une fois à reculons, parce que des Guitry, j'en ai vu des épouvantables. Mais là, plutôt, je suis sorti tout à fait heureux, content.
Alors, pareil que pour Un fil à la patte. C'est comment faire jouer ce genre de théâtre sans ennuyer, sans faire pour les fourrures miteuses, sans que ça sente la naphtaline. Et c'était très très bien, avec des comédiens extraordinaires, en toute intimité, parce que c'est un théâtre qu'on appelait de canapé. Là, il n'y a pas de canapé.
Il y a un téléphone blanc.
Et du coup, les gens sont beaucoup plus... Voilà. Ils sont tous les deux là et ils se placent plein de choses entre eux.
Et l'avantage, c'est qu'ils font très bien ressortir le verbe de Guitry, qui est tout à fait savoureux, tout à fait délicieux. Et on se laisse porter par ce verbe, par cette situation. Alors la situation pourrait sembler conventionnelle, donc il s'agit d'une histoire d'adultère. Mais on est toujours surpris. Il y a des surprises dans le texte tout le temps. Voilà.
On était un peu entre Un fil à la patte et... l'avantage d'être sérieux, hein. C'est quelque chose entre les deux.
Voilà, bien je vois que l'heure a tourné. Ce vendredi théâtre entre caresses et coups de gueule, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour l'actualité théâtrale et on refera d'autres entre caresses et coups de gueule au mois de juin. On va se quitter avec Brigitte Fontaine et M. Il y a des azous sur Divergence.
Sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous, c'est les azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les azous, il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour, vous serez tous azous comme nous, car le azou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un azou, c'est un azou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fût de la cafetière. Il est azou, il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra.